Dis donc, Plumeau, tu la connais, Kayane, toi? T'as déjà joué contre elle? Elle est si forte que ça ou...
Kayane?
Ouais.
Mais Kayane, je l'ai connue, mec, elle savait même pas tenir une manette.
Ouais.
Mais je te promets, à Street, je la défonce tout le temps.
Ah ouais.
Mais tout le temps. À
Plume!
Soulka, pareil. Oui? Qu'est-ce qui se passe?
Il est où mon café, là?
Il arrive par... pardon. Attends,
Quoi, il arrive? Et
oui.
pardon qui?
Pardon, maîtresse.
Ah, je préfère ça quand même.
J'y
Allez,
vais.
file.
Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le numéro 275. Un podcast qui va vous mettre des étoiles plein les yeux parce qu'aujourd'hui, nous recevons des stars du jeu vidéo, des campeones, des champions, des idoles du jeu vidéo, des monstres, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire honneur aux dames, hein, on va commencer les présentations avec Marie-Laure Norindre, alias Kayane, championne de jeux de baston et de Soul Calibur en particulier. Kayane, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
C'est vrai, tu es contente d'être ici?
Très contente, avec en plus Genius et Bruce Granek, The Machine.
Eh bien justement, je vais les présenter très rapidement. Donc, Norman Chatrier, alias Genius, champion de Tekken et touche à tout vidéoludique, tu joues à tout avec une manette.
Tout.
Ce qui est quand même assez exceptionnel.
Tout, même le vrai sport, tout.
Tout, même le vrai sport.
Tout ce qui est une manette, je joue.
D'accord, et tous les deux justement, je renvoie, vous présentez une émission d'e-sport?
Oui,
depuis
sur
la semaine
Game One,
dernière,
depuis
sur Game
la
One,
semaine dernière, qui s'appelle Game One e-sport.
D'accord.
Et donc, chaque mardi à 22h15, vous pouvez nous retrouver... faire la fête.
Voilà, l'actualité du sport électronique.
Ouais. Bah, on prend note et j'espère que tout le monde regardera cette émission.
Oui, regardez.
Puisque c'est le thème, c'est le thème du jour. Hein,
pression.
Je vais le dire juste après. Et le dernier invité, c'est Bruce Granette, alias Spank, alias La Machine, alias La Grenouille. Champion de PES, champion de FIFA, plein de fois. Est-ce que ça va?
Ça va et toi?
Bah, tu te prépares là, je crois, hein, pour le Paris Games Week, pour le SWC, c'est ça la
Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Il y a le SWC qui arrive et c'est vrai que le jeu est sorti depuis seulement 3 semaines, donc
ouais.
Forcément, on n'est pas encore au top sur le jeu. Mais voilà, il va falloir s'y faire. On verra bien comment ça se passe.
Mais moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Par contre, il y a un petit souci. Je crois que c'est sur Xbox que ça se passe cette fois, c'est ça?
C'est sur Xbox, donc ouais.
Toi, t'es plutôt un joueur PS3.
À la base, ouais, je suis plutôt un joueur PS3, mais il a fallu que je passe à la Xbox. Après, surtout une question de manette. Ouais.
Moi, je doute pas que tu vas encore briller. Et évidemment, avec nous, il y a aussi Julien Philippe Hubert, dit Julo.
Bonjour.
Champion de quoi?
Champion de rien du tout.
Champion du Zef. Voilà.
Un génie.
Je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Voilà,
ah, que, bah, écoute,
comme
nous
nos,
aussi,
comme
hein,
nos auditeurs.
On va tous apprendre quelque chose parce que c'est le but de ce podcast. Julien, j'en profite quand même parce que vous pouvez vérifier si vous êtes premium. Ce podcast est visible en avance.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Et premium, j'ai envie de te dire, c'est la vie.
Être premium, oui, c'est effectivement voir ces podcasts en vidéo, voilà, de pouvoir voir nos invités aujourd'hui. Et c'est aussi pouvoir avoir les podcasts en avance, voilà, puisque en l'occurrence, on les publie en général le lundi, donc 2 jours avant pour les premiums. Et puis être premium, c'est aussi avoir accès à tout un tas de concours voilà, qui leur sont réservés, des bêtas, voilà, tout un tas de bonus aussi pour les blogs, ne plus afficher la pub sur le site, etc., etc. Donc voilà.
Et là pour le coup,
devenez premium.
Les premiums sauront en avance comment devenir un roi de l'e-sport. Parce
oui.
que c'est le thème du jour. Évidemment, c'est l'e-sport. Hein. On les a pas invités pour rien. Nous allons donc nous pencher un peu sur ce domaine de manière générale pour savoir comment ça se passe. On va essayer de puiser dans l'expérience personnelle de nos 3 invités hein, pour vous donner les pistes si jamais vous souhaitez un jour prouver que vous valez mieux que champion de quartier. Alors l'e-sport, pour commencer, c'est avant tout de la compétition et des lots impressionnants. Je vous donne des exemples parmi d'autres. Cet été, là, par exemple, la compétition The International 3 qui s'est déroulée sur Dota 2, les 5 membres de l'équipe Alliance qui affrontaient les Navi en finale qui avaient déjà gagné en 2011 se sont partagés quand même 1,43 million de dollars à 5 et les finalistes ont quand même gagné 632 000 dollars aussi hein, partagé à 5, ça va j'ai envie de dire. Le 30 octobre aussi au niveau des compètes il y aura donc le SWC à la Paris Games Week, les World Cyber Games qui vont se tenir du 28 novembre au 1er décembre, il y a eu le Season 3 World Championship qui s'est déroulé récemment avec la team SK Telecom T1 qui s'est partagé 1 million de dollars aussi, c'est quand même pas mal, sur League of Legends. En France on a l'Iron Squid aussi, il y a aussi l'Evo, le Tougeki, l'Asian Indoor Games, il y a énormément de tournois dans le monde, il y a un engouement mondial depuis un certain nombre d'années, mais j'ai envie de vous demander déjà tous les trois quelles sont les disciplines qui cartonnent le plus aujourd'hui et qui sont les champions à suivre.
League of Legends, là, c'est le jeu le plus joué au monde, c'est incroyable. Et même l'éditeur Riot sponsorise les 8 meilleures équipes qui sont payées Non, c'est des rumeurs, mais certains joueurs ont fait quelques fuites. Environ 175 000 dollars par an.
Par an ?
Ouais, pour une équipe de 5. Ouais. Plus les cash prizes en tournoi, comme tu le dis, ça va parfois jusqu'à 1 million. Donc c'est incroyable. Après, il y a StarCraft 2, même si la scène tend à s'essouffler en ce moment. Notamment parce qu'il y a une sorte de saturation de tournois avec Blizzard qui s'investit à faire des tournois, les WCS. Et qui du coup, ça fait que les MLG n'ont plus de StarCraft 2 en ce moment. MLG, Major League Gaming, qui est aussi un très gros tournoi.
D'accord. Et donc les champions, à part League of Legends, donc, il y a aussi, donc, je disais, Dota, StarCraft 2, Counter-Strike Global Offensive, qui a remplacé la 1.6 il n'y a pas longtemps, je crois. On a aussi Call of Duty qui s'est incrusté un petit peu sur la scène de l'e-sport depuis pas très longtemps. Donc Dota 2, Shootmania Storm, FIFA 14, Trackmania. Ça fait quand même un paquet de jeux, quoi, un paquet de disciplines.
Un gros paquet, beaucoup.
Et toutes sont traitées de la même façon par les médias, ou il y a vraiment, à part League of Legends et Dota, évidemment, qui sont les plus médiatisés. Mais le reste, même au niveau jeu de baston, par exemple, c'est...
Nous, on est un peu à part. Hein. J'ai envie de dire que, en fait, les meilleurs joueurs du monde de jeux de combat, c'est majoritairement les Japonais, même si les Américains sont pas très loin derrière. Et en fait, les Japonais, ils gagnent pas de cash prize. Et les entreprises japonaises n'ont pas le droit de soit sponsoriser ou donner beaucoup de cash prize en tournoi.
C'est encore un pays communiste, le Japon. Je ne savais pas du tout.
On gagne l'honneur avant tout.
Ouais. Par exemple, là, il y a eu au Tokyo Game Show un tournoi de qualification pour la Capcom Cup. C'est pas du tout du cash prize que le gagnant a remporté. C'était des lots qu'on trouve comme un stick arcade, un casque, mais c'est vraiment basique en fait.
Alors
pour
que c'est
une
des
qualification comme ça, c'était c'est vraiment le plus gros événement au Japon en ce moment. Mais il a gagné la gloire et c'est comme ça au Japon.
Ah ouais, ça nous rappelle un peu les PES League, hein, avec le panier d'huile d'olive et
c'est ça, oui, c'est pour l'honneur seulement.
Ouais, voilà, c'était
un peu
ça.
Avant tout.
Mais d'ailleurs, oui, pour FIFA, ça se passe comment au niveau médiatisation, au niveau
Ça se passe comment? C'est un peu comme les jeux de baston, j'ai envie de dire, c'est un peu à part. Bon, il n'y a pas autant à gagner, je me dis que j'ai peut-être raté, je me suis peut-être trompé de jeu quand j'entends ce qu'il y a gagné sur League of Legends et tout ça. Mais ouais, non, c'est un peu à part. Après, il y a la FIFA quand même qui organise son propre tournoi, donc la FIWC.
Qui permet de prendre une photo avec Lionel Messi, par exemple.
Qui permet quand même de gagner du cash prize et d'aller au Ballon d'Or. Donc c'est sûr, quand on aime le foot, c'est quand même un gros kiff.
Ah bah pour toi, oui, j'imagine.
Donc voilà. Et ouais, donc c'est un peu à part. Après, il y a quand même un gros tournoi qui a fait son apparition depuis 2 ans. Le premier gagne 140 000 dollars. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à le gagner. J'espère que ça viendra un jour.
C'était à Las Vegas, c'est ça ?
Ça a été une fois, une édition à Las Vegas et une à New York.
D'accord.
Et donc voilà, ça se développe. Il y a de plus en plus de tournois. Et puis voilà, après, c'est sûr qu'on est loin du niveau et de la médiatisation qu'il y a sur certains jeux.
Alors justement, pour ce qui concerne la médiatisation, on voit qu'en Corée, par exemple, il y a carrément des chaînes qui sont dédiées aux jeux et à l'e-sport. Mais en France... par exemple, j'ai fait un petit survol rapidement, mais pour suivre précisément les choses, c'est vrai qu'on a la Millennium qui a une chaîne qui est très impressionnante hein, à ce niveau-là. Il y a de l'info tout le temps, ça tourne.
Un gros stream, ils ont un gros stream.
Ah ouais, il y a les AA, il y a O-Gaming. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen pour un Français, voilà, un Français moyen, de justement de suivre tous ces tournois dans le monde et de se, j'ai envie de dire, de se renseigner, quoi, parce qu'on a envie de voir le niveau des autres personnes qui sont dans le monde.
Ça dépend sur des jeux, ça dépend si c'est des tournois ou des joueurs. Je sais qu'il y a par exemple Call of Duty. Il y a un joueur, Gotaga, qui est le meilleur joueur français actuel sur Call of Duty. Lui, on peut carrément, il filme toutes ses vidéos, il stream ses tournois, etc. Il y a des tournois, par exemple, il y a la Gfinity, qui est un des plus gros tournois du monde de Call of Duty, avec toutes les équipes américaines, tout ça. Par exemple, il fallait payer. Fallait payer pour regarder le stream, mais bon, c'était 4 ou 5 dollars, comme le Major League Gaming, qu'on parlait tout à l'heure. Alors, si généralement on paye 4-5 dollars, et puis on peut avoir accès vraiment à toute la diffusion du tournoi sur 3 ou 4 jours, donc c'est assez quand même bien retranscrit. On est loin encore une fois de la Corée du Sud, où là on a carrément invité à la télévision nationale une chaîne entièrement dédiée à l'e-sport, ils ont carrément des limites des stades, etc. Mais ça avance, en tout cas, ça avance beaucoup en Europe et aussi beaucoup aux États-Unis.
Mais qu'est-ce qui nous manque justement en France pour avoir cet engouement enfin pour l'e-sport, qui est quand même quelque chose d'assez massif, qui intéresse de plus en plus de monde en France et en Europe? Qu'est-ce qui nous manque exactement? Est-ce qu'il y a déjà une reconnaissance au sein des chaînes hertziennes, justement, pour ne serait-ce que s'intéresser un tout petit peu, quoi, avoir une petite lorgnette même un trou de serrure pour pouvoir savoir ce qui se passe.
Le débat ultime, le débat sans fin.
Non, ça dépend vraiment des chaînes, mais par exemple, l'an dernier, Bruce et moi, on était interviewés par M6. Mmh. On a même fait l'objet d'un petit reportage sur 100% Mag où figuré dans le JT à 19h45, mmh. C'était cette heure-là. Et du coup, on nous valorisait vraiment en tant que joueurs, que c'était un métier, etc. Et je ne peux pas dire la même chose de Canal+, qui m'avait interviewé en m'invitant dans la nouvelle édition, juste pour me bâcher, pour bâcher en fait les joueurs en général, pour me dire est-ce que t'as pas l'impression de planer ou de...
Ah oui, t'étais invité avec Sébastien Abdelhami, je me rappelle, oui. C'était,
oui, j'étais avec lui.
Je me rappelle plus quelle est la journaliste qui est en plus très compétente, mais qui a pété un plomb, quoi.
Elle a pété un plomb, carrément. Ouais. Et du coup, j'ai été venue fièrement avec mon stick arcade et on me dit, mais attends, il y a 6 touches blanches, comment tu fais pour faire la différence entre ces touches? Et attends, un pianiste, il fait comment
il met un coup de crayon dessus.
Mais oui, mais c'était, c'était assez chiant de voir qu'on était...
assez catalogué. On a fait Canal+, quand même. Il y a une émission Canal+, le jour de jeu vidéo, on a été invité et là, c'est quand même plus évolué, quoi.
Mais c'est encore pire, ils ont collègue, ça change, mais ils ont un collègue quand même chez Canal+, Fred Moulin, qui fait le journal du jeu vidéo.
On salue, d'ailleurs.
Et dans une autre émission, il bâche les jeux vidéo.
Bah oui, mais c'est justement ça en fait, parce que c'est à part le domaine spécialisé, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est des petites fractions quoi qu'on vous offre. Et encore, on vous offre parce que vous êtes champion. Mais sinon, au sport en lui-même, à l'e-sport en lui-même, il y a quasiment rien.
C'est pas encore reconnu. Il y a eu des réunions, tout ça, pour que ce soit reconnu. Aux États-Unis, les joueurs de League of Legends sont officiellement reconnus comme des sports, vraiment, comme des sportifs, comme un sport. On peut vraiment aller là-bas, être
comme des sports.
Chaque joueur, c'est un sport. Non, comme des sportifs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs vraiment étrangers qui peuvent aller là-bas, habiter et être rémunérés, payés. Donc, c'est vraiment des pays comme un sportif. En France, c'est encore difficile. C'est pas la Corée, c'est pas les États-Unis, quoi.
Ouais. Bah justement, ça allait être ma question. La teneur de ma prochaine question, c'était que justement, est-ce qu'on peut, quand on voit l'engouement qu'il y a et quand on voit, l'énergie que ça demande justement de s'investir là-dedans, est-ce qu'on peut vraiment parler de sport? Moi, j'ai mon point de vue personnellement, hein, je pense que oui, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de sport? Moi, j'ai posé la question d'ailleurs sur Twitter, hashtag podcastgameblog, j'ai demandé rapidement si l'e-sport avait sa place aux Jeux Olympiques. Bon, bah, les réponses sont assez cyniques, hein. Par exemple, Misato me dit « autant que les échecs et la pétanque, qui sont aussi des sports ».
Donc voilà, il faut être monstrueux.
Voilà. Et Getoun qui dit bien sûr entre la belote et le jokari. Donc c'est vrai qu'on a quand même on a du mal à imaginer, je pense, quand on est en dehors, que ça demande vraiment de la concentration, de l'énergie, de l'entraînement, etc.
Alors je tiens à préciser, normal, juste avant de laisser la place, la parole à mes amis.
Ouais.
Je tiens vraiment, je sais pas si un jour ça sera considéré comme un vrai sport, mais c'est vraiment, on peut considérer ça comme un sport de haut niveau, vraiment. C'est quelque chose qui demande un skill, qui demande des réflexes, qui demande une réflexion, une stratégie. Il faut vraiment, tout se passe dans la tête. C'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens voient ça comme un jeu vidéo, machin. Non, non. C'est vraiment un sport de haut niveau. C'est aussi dur d'être champion du monde sur un jeu que d'être champion au tennis, comme le fait Nadal ou Federer.
Peu moins physique.
C'est voilà.
La concentration, ça bouffe de l'énergie quand même.
Le physique en moins, mais beaucoup plus dans la tête. Voilà, beaucoup plus dans la tête. Comme un joueur d'échecs, les gens ils se disent mais c'est incroyable les échecs. Mais jeux vidéo, c'est pareil. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un sport de haut niveau.
Justement, la parole au Kasparov du jeu de baston.
Kasparov.
Kayane, qu'est-ce que...
Moi, je dirais pas que le jeu vidéo a sa place dans les Jeux Olympiques. En fait, on a besoin d'avoir notre propre gros événement et pas être greffé au JO, mais on a déjà des événements où c'est incroyable, c'est bien fait, c'est comme un show, comme l'a montré l'Iron Squid. Là, j'étais dans un autre monde. Ouais. Et même si à l'époque, je jouais pas à StarCraft 2, les matchs étaient rendus très intéressants. Et là, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose et réunir tous les jeux compétitifs pour faire une sorte de gros show ou même un petit tournoi. Un petit tournoi qui réunit les meilleurs joueurs, en fait, pour montrer au monde ce que c'est vraiment.
Et ça demande une organisation de taré.
Ouais. Bon, ils l'ont déjà fait sur League of Legends avec Tales of the Lane, Iron Squid. Ils ont réuni ça au Palais des Congrès de Paris, c'est pas rien.
C'était Pomme Fétude qui s'était occupé de l'organisation.
Au gaming, oui. Au Casino de Paris, au Grand Rex. Donc voilà, on commence petit à petit et peut-être qu'on va avoir un Stade de France.
Ouais. peut-être qui sait, un jour, une reconnaissance par le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi.
Ouais.
C'est quelque chose à faire. Il se pose la question, mais je crois que la réponse est quand même assez nette.
Ouais. Il se pose la question, mais c'est non. C'est quand même non.
Et toi, Bruce, dans le fait que ça soit un sport, Ouais, bah, que tu vois pas d'inconvénient non plus.
Non, je vois pas d'inconvénient. Bah, comme ils ont très bien dit, je pense que, à mon avis, ça, on peut pas être mêlé aux Jeux Olympiques, mais on devrait avoir nos propres événements, enfin un truc à part. Après, ça demande. C'est vrai que c'est un sport, parce qu'au niveau mental, rien que ça, c'est vrai que c'est très épuisant et puis ça demande des ressources mentales. Et ça se passe beaucoup dans la tête, parce que c'est vrai que quand il y a un enjeu, tu joues pas chez toi, quand tu joues et qu'il y a des lots importants à gagner et que tu joues devant un public, forcément, c'est plus compliqué. Et ça demande aussi de l'entraînement, une vraie préparation avant. Donc c'est vrai que c'est un sport, c'est différent du vrai sport pour moi, mais c'est à sa façon un sport.
Justement, rapidement avant que Julo prenne la parole, le public justement, ça joue son rôle un peu de 13e homme, comme on dit au foot. Est-ce que ça a une importance pour toutes les fois où justement vous avez joué en public? Est-ce que vous avez senti justement qu'il y avait une énergie positive ou négative qui sont dégagées?
Ah ouais, bah ça dépend vraiment du public. Il y en a qui font ouh, il y en a qui applaudissent, qui crient ton nom. Donc ça apporte une hype, une adrénaline incroyable qui est indescriptible. C'est juste pour ça, je pense, qu'on continue les tournois en fait. Ouais. C'est pour sentir ce
même
genre de choses.
Même
sans être payé, on y va rien que pour ça. Et c'est incroyable. Et t'es encore plus fier quand tu fais des actions magnifiques et que tu te dis oh putain, j'ai réussi. En plus, j'ai gagné.
Ouais, je pense que ça dépend des jeux aussi. Est-ce que bon, vous jouez sans casque aussi, je pense, ou vous avez un
là ça commence, on commence à avoir des casques.
Il y a des jeux, faut être dans sa bulle, mais c'est vrai que moi par exemple, il y a des joueurs sur FIFA qui jouent avec leur casque et moi je préfère justement jouer sans casque avec le public et tout, avec l'ambiance.
Mais des fois t'as des commentateurs aussi,
il y a des commentateurs aussi. Franchement, en tout cas pour ma part, je fais abstraction de tout. J'entends juste les voix qui me sont familières, genre mon coach ou s'il y a Zal ou quoi, là je vais entendre parce que c'est des voix que je connais, mais le reste tu fais abstraction de tout.
D'accord. On a Ken Bogard.
Ah bah oui, Ken Bogard qui va...
Notre représentant.
Il meurt pas sans son pif.
Il rend fou, mais on l'adore.
Parle à une vitesse, il décrit les actions à une vitesse, ça m'épate. Julo, tu voulais intervenir il y a quelques secondes.
Non, c'était juste sur la reconnaissance en tant que sport et le fait que ce soit intégré dans des compétitions sportives classiques. Quoi. Je me disais, en fait, est-ce que le e-sport, ça manque pas tout simplement d'unité? Parce qu'il y a plein de championnats différents, il y a... Enfin, c'est certainement parce que c'est jeune, mais on a l'impression que c'est complètement anarchique, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a des compétitions à droite, à gauche, cash prize, pas cash prize, et unité aussi au niveau des jeux, parce que, enfin, je veux dire que comment on choisit les jeux? Donc, on prend les plus populaires, ils changent tous les ans. Est-ce que c'est pas ça au fond le vrai problème qui empêche l'e-sport, qui est devenu ultra populaire, de devenir véritablement un vrai sport?
Normal.
Qui va? Non.
Vas-y.
J'y vais. Non, ça dépend. Alors moi, je pense déjà il y a un problème de structure. Il faudrait vraiment installer une structure, une espèce comme une fédération, comme qu'il y a dans le vrai sport en lui-même, comme le tennis, etc. Après, le choix des jeux, c'est vrai que généralement les jeux qui sont choisis, c'est par rapport à la popularité, mais aussi les jeux qui peuvent être joués en compétition. Par exemple, on va pas prendre un GTA 5. Genre, je suis champion de France de GTA 5. Ça marche pas. Mais moi, je pense vraiment ce qui ferait avancer vraiment l'e-sport, comme en Corée. C'est vraiment une structure, une fédération, les joueurs reconnus, les joueurs officialisés, que ça soit pas, il n'y ait plus ce côté underground, comme tu dis, ça part dans tous les côtés, tournant dans tous les côtés, je dirais c'est un mal pour un bien, plus il y a tournoi, mieux c'est, il faut que ça soit plus restructuré.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un beau rêve en fait de faire une fédération dans l'e-sport, parce que... Enfin, comme on l'a dit, il y a beaucoup de tournois partout, il y a des organisations qui organisent des tournois dans le monde, comme le Major League Gaming. Maintenant, il y a Blizzard qui organise même les WCS. De son côté, Riot organise aussi ses tournois. Et en fait, ces éditeurs, par exemple, sont concurrents et je les vois mal dans une même fédération ensemble parce qu'ils veulent faire les choses dans leur côté. Et après, il y a les associations aussi qui organisent leurs petits tournois avec des moyens plus modestes, mais ils assurent quand même. Et eux, je pense qu'ils aimeraient bien avoir une fédération, mais après, il y a au-dessus des éditeurs qui investissent des millions de dollars.
Avoir une aide, quoi.
Mais en fait, que tu vois, par exemple, dans le football, tu as des compétitions partout, tout le temps, inter-lycée, etc., etc., mais tu as une Coupe du Monde. Et tu as une fédération, c'est la FIFA. T'as l'UEFA aussi, bon, pour ce qui est européen, mais bon, les deux vont de pair. Mais quelque part, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faudrait quand même qu'il y ait une structure qui s'impose, quoi.
Ouais, mais ça va être dur, je pense, de s'imposer dans ce milieu-là avec des éditeurs qui pensent vraiment plus à leur jeu qu'à avoir une sorte de ligue e-sport. Voilà.
Ouais.
Oui, ça a l'air,
c'est vrai,
ça a l'air,
serait plus simple que tout soit centralisé. Parce que par exemple, dans FIFA, c'est vrai que pour ceux qui commencent, par exemple, c'est vrai que tu sais pas où t'inscrire, quel tournoi faire, t'es un peu perdu. Quoi. C'est vrai que c'est un peu le problème.
Moi, je t'ai demandé plusieurs fois.
C'est pour ça que je t'ai pas répondu.
Justement, j'allais y venir parce que ça allait être ma prochaine question. J'ai vraiment fait des transitions pour moi, c'est génial. Je voulais savoir justement qui. À tous les niveaux, hein, vraiment pour tous les jeux, que ce soit Counter, que ce soit Call of Duty, Dota, League of Legends, Shootmania, FIFA, Trackmania, Starcraft, qui doit-on, si par exemple là moi je suis chez moi, je me dis tiens je suis bon à ces jeux-là, qui je dois contacter aujourd'hui pour chaque jeu pour me dire tiens j'ai une chance de montrer que je suis le meilleur et...
Déjà le milieu des jeux de baston, ça c'est vraiment une chose que je... vraiment que j'aime beaucoup, c'est que c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire on va sur les forums, tiens, il y a un tournoi, il y a un championnat, il y a un gros truc. Il y a juste, bon, en général, il faut se qualifier, mais souvent on peut y aller. Par exemple, le championnat LEVO, qui est le plus gros tournoi de jeux de baston au monde, qui se passe à Las Vegas, c'est vraiment une religion, c'est carrément la folie, quoi. C'est la Coupe du Monde des jeux de combat. On y va, bon, si on n'a pas de sponsor, on paye son voyage, on paye son billet, mais on peut juste s'inscrire. On va sur le forum,
d'accord.
On paye son inscription, on y va comme
l'EVO.
Voilà.
EVO.
Ouais,
EVO, on y va comme un champion avec son sapom.
Et à l'échelle française.
Sapom et son sac.
C'est parce que là, si, là, on vise dans le mondial. Hein,
non,
déjà,
tu vas à Las Vegas. Non, ouais. Non, bah, en France, il faut traîner sur les forums, les sites spécialisés, ouais, eSport.
Lesquels en particulier ?
Il y a eSport France qui regroupe les. Et tournoi de jeu, faut vraiment se renseigner sur le SWC chaque année, regarder les étapes de qualification. Pour FIFA, je crois qu'il marque à chaque fois les étapes de qualification.
Il y a le calendrier Millennium aussi, c'est intéressant parce qu'ils regroupent vraiment, ils essayent de regrouper en tout cas la plupart des jeux en tournoi. Même d'ailleurs les séries, c'est Walking Dead,
ouais, voilà, c'est ça, ils
des trucs utiles pour
Geek,
qui
servent à rien mais ils le mettent quand même. Non, mais c'est bien,
pour les jeux de combat, il y a bagro.fr qui a un bon calendrier aussi des événements. Quoi d'autre ? Parce que c'est vrai que c'est un gros dawa dès qu'on veut se renseigner sur les tournois à venir. Bah, chacun a sa petite organisation, son tournoi et son propre site. Et voilà, même en France, on n'arrive pas à fédérer toutes ces petites communautés.
Et est-ce que c'est pas trop centré sur Paris justement pour tous ces tournois ?
De moins en moins.
En tout cas pour FIFA.
Ouais, oui.
Pour ce qui est de FIFA, je trouve les jeux de foot, il y a quand même, on va dire, il y a 80% des tournois, ça se passe sur Paris.
Mais les tournois live, encore
ouais,
une fois.
Tournois
c'est
live.
Quand on est, parce que sinon, le en ligne est venu s'incruster aussi.
C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ça se passe un peu trop sur Paris.
Pas trop sur Marseille, tout ça, non ?
Il commence à en faire sur Marseille, ouais. Bordeaux et tout ça, un peu partout, mais ça commence seulement à changer.
D'accord. Alors, la question que je vais vous poser des questions Twitter, tiens, tout de suite, des petites questions aux invités, toujours avec le hashtag podcastgameblog. Il y a Tioup qui me demandait si vous aviez eu vent d'histoires de corruption de matchs truqués dans le monde de l'e-sport.
Ah ouais.
Ouais, une fois on m'a proposé $1 million. Non, que j'ai accepté. Tu sais, j'ai vendu, je me suis acheté une maison. Non. Enfin, moi en tout cas, il peut y avoir des petites histoires, des petites embrouillades.
Par exemple, anecdote. Allez, si vous avez ça.
Non, allez.
Allez, on balance.
Allez,
on s'en fout.
Allez, après je m'en vais, j'arrête tout. Tu sais, genre, change de pays. Non, un joueur que tu connais.
Balance.
Alors on va vous mettre l'adresse en bas. Alors je vais pas balancer le nom. C'est un joueur anglais qui prenait des substances avant le match. Alors
d'accord.
Le mec, il est.
C'est du Adderall, non, ou des trucs comme ça, non, c'est pas
je vais pas dire ce que.
Non, je sais pas, parce que je crois qu'il y a une substance en particulier qui permet d'avoir la concentration.
Une substance nasale. Une substance nasale.
Plus de fatigue. Ah oui.
Voilà, une substance nasale. Alors, c'est-à-dire qu'il est 5h du mat, tout le monde est crevé, le mec il sort des toilettes, c'est un robot quoi. c'est un cyborg, c'est un génie, il voit tout, il dort pas pendant deux jours, c'est un génie. Du coup, il y a 2-3 petites histoires, ça c'est pas
mal.
Mais
est-ce que ça l'a vraiment aidé à gagner?
Ah bah il a gagné le tournoi.
Oh, okay,
il a été d'ailleurs il m'a roulé dessus sur ce jour-là, il m'a roulé dessus.
Donc, ne faites pas ça chez vous.
Ouais, ne faites pas ça. Mais à part ça, non, les corruptions, il y a toujours des histoires dans l'e-sport machin, des petites engueulades, mais enfin j'ai pas entendu, je sais pas si
j'ai
entendu.
Moi j'avais eu vent d'une histoire en Corée où là où l'e-sport est considéré comme un sport national diffusé dans des chaînes de télé nationale et il me semble bien qu'il y avait un joueur, enfin deux joueurs qui s'étaient entendus sur le vainqueur et le perdant et en échange d'une grosse bonne somme d'argent et du coup bon, ça s'est grillé et le mec a fini en prison quelques mois.
Ah oui, quand même.
Ouais. Ah, ça va très loin en Corée.
Ça rigole pas en Corée.
Ah oui, donc effectivement. Mais moi, j'avais entendu parler d'autre chose. C'était que dans les compétitions, donc en live, je sais plus si c'est sur League of Legends ou sur Dota, mais il y avait des joueurs. Forcément, quand t'es face au public et tout, et que tu vois pas l'écran de ton adversaire, il y avait des joueurs qui se retournaient de temps en temps pour regarder.
Ah, c'est chaud.
Ouais, ça, c'est, bah, ça, c'est grillé quand même.
Ah bah, c'est bah, le mec qui fait ça. Il y a la photo. Il y a la photo.
S'en fout le mec.
Mais oui, je te dis, il y a la photo où tu le vois tourner la tête comme ça vers l'écran pour voir exactement où ça se passe. Donc oui, j'avais entendu parler de ce genre de petites choses. Et toi, Bruce, justement, corruption.
Tu dois connaître un peu ça, je pense, vu que t'as fait quelques tournois sur PES.
Ouais, ouais, bah, j'avais vu, il y avait quelques
arrangements. Ah non, on connaît pas, alors balance.
Balance.
On a balancé, mais c'est vrai qu'il y a souvent eu des petits arrangements.
Bah, tu sais, quand on est dans les poules et que tu te retrouves avec deux joueurs qui sont à égalité et que les deux derniers
qui
s'affrontent,
ah,
et que
surtout tout le monde se connaît, voilà. Bah là, forcément, il y a un 6-0 qui part. Ouais,
c'est genre, ah oh, bah tiens, mon goal average il est positif maintenant, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé genre,
il y a eu des arrangements même pour les lots, des joueurs déjà qualifiés par exemple pour le SWC qui laissaient des potes passer et puis s'arranger sur les lots. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'histoires comme ça sur les jeux de foot.
Ouais. Ouais, bah bon, sur les jeux de combat, c'est surtout aux États-Unis qu'on se rend compte qu'il y a de la corruption. Mmh. Et les top joueurs comme Justin Wong, Chris Jay, etc. sont ont souvent affaire à des petits arrangements.
Des petites magouillades.
Et, mais ça se voit en fait. C'est juste du foutage de gueule en fait, pour le public qui regarde le streaming ou les organisateurs et les sponsors. Et du coup, ça fait un gros clash, un gros drama, parce que du coup, les organisateurs et les sites internet, etc., disent qu'ils ne veulent plus diffuser ou être partenaires d'événements qui tolèrent ce genre de comportement, ou même ce genre de joueurs, quoi. Et pourtant, c'est des joueurs qui sont proches des marques, etc. Mais ils sont entre potes. Ils font une finale qui pue la merde, sérieusement. Ça genre, pue vraiment.
Genre, oh là, j'ai rien pu faire. T'es vraiment monstrueux. Alors que le mec, il gagne normalement, tu vois.
Bah justement, j'ai envie de continuer dans la phase sombre un peu de l'e-sport avant qu'on parle un peu plus de vous, de comment. De ce que vous gagnez hein, dans l'e-sport. J'ai envie de savoir s'il y a des bad boys, justement. Parce que moi, j'avais entendu, par exemple, parler de Stefano, qui s'est quand même fait bannir. Je crois pendant un an pour paroles déplacées
envers une jeune adolescente.
Il a balancé en fait sur un il était en pleine partie et genre il parlait d'une adolescente mineure je crois
Et elle avait 14 ans, si j'ai bien, si je me rappelle bien, elle avait 14 ans, effectivement.
14 ans, je voulais pas dire l'âge, mais tu l'as dit. Voilà, il l'a dit. Voilà,
c'est
et du coup, il a dit.
C'est un peu Jean-Luc Lahaye.
Voilà, il a fait son Jean-Luc Lahaye, il a balancé des trucs un peu, c'était un peu du Dorcel. C'était du Marc Dorcel. Et du coup, son équipe a vu ça. En plus, son équipe, c'est.
Evil Genius.
Voilà, Evil Genius, c'était la plus grande équipe vraiment de jeux vidéo au monde, e-sport au monde. Il est payé, Sponsor Stefano, il est payé entre 5 et 10 000 par mois. Donc ça rigole pas. Les gens ont vu ça. Il a été banni pas un an, mais plusieurs mois, je crois.
Ouais, c'est plusieurs mois. En fait,
et c'était la sanction de son équipe Evil Geniuses, en fait, qui l'a suspendu pendant quelques mois.
Mais lui, il allait s'entraîner en Corée, du coup, c'est ça
Attends, il s'est entraîné aux États-Unis.
Ouais, mais du coup, après, il est parti en Corée.
Après, il est parti en Corée.
Ouais,
il a fait le tour du monde et là du coup il vit à Luxembourg et il est à la retraite.
Corée-Luxembourg.
Alors il a fait direct, il a fait comme, il fait comme
je crois qu'il continue ses études maintenant.
D'accord, il fait pas comme Elky qui s'est reconverti dans le poker.
Non, pas encore en tout cas.
Il fait un excellent joueur de StarCraft 2 qui a gagné je sais pas combien de
StarCraft 1.
StarCraft 1
ouais.
Ah, ouais, Brodoir.
Ah, ouais, c'est sur Brodoir. Et qui aujourd'hui dans le poker qui gagne encore plus d'argent dans le poker.
Ah bah lui il a compris.
C'est des millions là.
L'argent là, il a compris que sur le poker il y avait de l'argent.
Ah ouais, parce qu'il a je sais plus il a dû gagner un des plus gros une grosse somme.
Il avait gagné 3 millions au tournoi.
Il a gagné 3 millions.
C'est une belle reconversion. Ouais,
pas mal.
Avant la
retraite. Bonne idée. Tu sais.
Et il y a eu d'autres exemples à part justement Stefano.
Il y a des joueurs un petit peu grande gueule. Il y a toujours dans chaque jeu, il y a des joueurs grande gueule. Les joueurs Street Fighter, t'en parlais, Krigi, c'est un joueur qui est pas aimé parce que déjà il sourit une fois tous les 2 ans et demi.
Quand il sourit, c'est pour te péter la gueule. Voilà, en gros.
Quand il fait un sourire au coin. Quand il se cogne, il sourit, il fait ah. Voilà, il se cogne. Voilà. Et c'est le mec vraiment pas aimé. Il est pas sympa. Il est pas fair play. Il y a vraiment dans les jeux de baston FPS.
Il y a des problèmes de fair play aussi.
Ah bah oh là là, c'est vraiment.
Les gens
ne
serrent pas la main.
Attends, on en a vu. Il y a un joueur de Street Fighter, il sert pas la main. S'il sert la main quand il gagne, quand il perd, il s'en va.
Ouais.
Il tourne le dos. Voilà.
Tu parles de qui la balance
Wolfcrone.
Ah, Wolfcrone.
Un joueur américain.
Qui joue Viper. Mais il est super stylé.
C'est un monstre, c'est un méga joueur. Mais bon, il y a des joueurs pas fair play. Il faut savoir que l'e-sport, c'est ça avant tout. Il faut vraiment rester. Ça reste un sport, ça reste un jeu. Et il y a des joueurs qui se montent un peu le citron, notamment. Enfin, vraiment. Je sais que dans les jeux de combat et FPS, il y en a pas mal.
Mais bon. J'ai vu une vidéo sur YouTube du site Eurogamer. Ça s'est vu plus d'un million de fois. C'est les rage compilations.
Ouais. Sur Call of Duty.
Sur Call of Duty.
Sur Call of Duty, où il l'avait mis l'année dernière, ouais. Je me rappelle.
Ça insulte carrément.
C'est ouf, quoi. Ouais. Tain, on n'a pas ça dans les jeux de combat.
Non. Mais on voit qu'à la fin, les mecs, ils vont comme se serrer la main et tout. Hein.
Ouais. Oui, là, c'est vraiment bien.
Tu vois, ils s'insultent, c'est vrai. Là, ils se lèvent, ils se lèvent, ils font vas-y, je t'ai baisé, machin. Salut, ça va, c'était cool. Bien joué, GG.
Non, non, il y a des gens où, même à la fin, ils te serrent pas la main. C'est un peu mauvaise ambiance.
C'est un peu comme dans le sport, en fait. Ouais. Des rageux, et puis voilà.
Des grands joueurs, mais on sait qu'ils sont pas. Tu prends une photo avec eux, tu te prends un coup de. Tu te prends...
Mais vous avez toujours été fair play.
Non. Ouais. Si genre... moi, j'insulte. Ouais, non, bien
moi
sûr.
Moi, j'ai toujours serré la
tout
main.
Le temps, il
tout
faut
le temps,
tout.
Bien joué.
Même quand t'as pas
ça
envie des fois.
Ça dépend de l'adversaire, quand même. Il y en a qui méritent pas.
Alors, vas-y.
Ah, vous aussi.
En général, je suis quelqu'un de fair play, enfin, j'espère.
C'est arrivé une fois, vas-y, dis-moi.
Non, mais ça m'est déjà arrivé, notamment contre un joueur espagnol, ouais, de pas serrer la main.
Le champion du monde.
Parce que le gars, vraiment, il est pas fair play, quoi. Donc, quand ça va.
Mais à quel niveau? C'est pendant le jeu? Enfin, dans le jeu ou à l'extérieur?
Pendant le match, surtout, des phases, il dit des trucs où voilà, c'est pas bien. C'est vrai que.
En espagnol, hierole, ouais, les maricas, c'est.
Surtout que le gars, il est bête, qu'il dit des trucs où tu le comprends, quoi. T'es français, tu comprends
tout
de suite.
Tu comprends Pouta.
Ah
ou...
oui,
donc voilà.
Mais c'est pas le champion du monde.
Non,
c'est pas lui.
Ça. C'est pas lui, c'est un autre. Qui a d'ailleurs été banni de l'OSWC plusieurs fois pour insulte raciste. C'est la totale.
Oh, c'est pas mal.
C'est glauque.
Ouais. Ouais.
Ça va loin.
Ah oui, d'accord.
C'est flippant.
Ça, on est assez respectueux, nous, quand même.
Ouais, ouais, non. on est trois gentils petits.
Nous, on a l'image de l'équipe de France.
Voilà.
Ah ouais, ça met la pression, ça.
Fou la merde.
Il y a Ribéry, il y a Evra.
Ah non! En fait, j'ai vu son interview hier et tout.
Il est parti en vrai.
Et moi, Zizou. C'est genre le mec qui se fait
plaisir.
Le mec qui se fait plaisir.
Jules, t'as d'autres choses, un truc à demander? Non? Alors, je vais me repencher sur Twitter sur les autres questions. Alors. Une petite question de Lionel Machu qui m'a paru assez intéressante, c'était... Il s'appelle Lionel Machu, voilà, c'est comme ça. Vu le nombre d'heures jouées, êtes-vous encore sensible au rendu ou à la direction artistique dans les jeux de baston? Je pense que ça s'adresse surtout à toi.
Je pense aussi.
À moi, de toute façon, moi, je suis vachement attachée en fait, aussi les personnages, au graphisme et aux musiques particulièrement. J'ai du mal à jouer aux jeux qui ne me plaisent pas graphiquement. Donc, par exemple, Injustice, j'ai un peu du mal graphiquement, même si le gameplay est intéressant, mais graphiquement j'ai du mal. Je suis plus habituée à des jeux plus colorés, plus flashy. Genre Street Fighter 4 ou Soul Calibur 5, Dead or Alive. Il me faut des persos classe. en plus, les voix, ça joue énormément et dans Injustice, on les entend à peine. Les musiques, on les entend pas non plus.
On n'entend rien, tout est cassé.
Mais ça n'empêche qu'ils ont une super communauté et tout.
Ouais, bon jeu.
Et c'est dommage en fait qu'il y ait des aspects du jeu qui sont en retrait et que j'aurais bien aimé voir. Et du coup, pour ça, voilà, ça m'intéresse moins.
Un peu sombre. Ouais. Un peu sombre.
Ouais. C'est normal, pareil. C'est...
Moi, Tekken, Street Fighter, moi aussi, je suis un peu comme ce que, comme dit Kéané. Moi, j'aime bien le côté flashy, coloré, ambiance. Vraiment, c'est ce qui donne envie de jouer au jeu. Donc pour ça, pareil.
Donc il y a un affect déjà à la base pour les jeux qui nous partent. C'est le boulot et puis c'est tout. Je vais jouer.
Non. C'est vrai qu'Injustice c'est sombre. Alors il faut savoir que dans certains FPS, comme moi je joue aussi à Quake sur PC, savoir que là faut oublier. Question artistique, faut oublier. On en est sous. Il y a deux textures.
Ah mais c'est quoi que le premier
c'est le gameplay aussi, tout est dans le gameplay.
Tout est dans le gameplay, parce que c'est vrai que les joueurs pro, quand on joue en compétition, on enlève toutes les textures, tous les graphismes, il y a trois couleurs et on voit vraiment. Non mais c'est vrai, c'est carrément c'est Tetris 2. Non mais c'est vrai, il faut que ça soit fluide. Et là on s'en fout totalement, c'est le gameplay pur et dur. Jeu de baston, il y a vraiment la musique, les voix, l'ambiance, les couleurs, et Street Fighter Tekken, ouais, c'est bien.
Et les musiques, elles sont punchy dans
Tekken. Elles sont trop punchy.
C'est à fond.
Voilà, on a envie de tout casser quoi.
Moi j'ai pas te demander Bruce hein pour FIFA ou PES.
Un foot, ça
une balle.
C'est le gameplay. Comme il disait, moi, c'est surtout on cherche le gameplay. Après, bon, si c'est plus fin graphiquement, s'il se passe des choses dans les tribunes et que c'est, l'ambiance est cool, tant mieux, mais c'est vraiment le gameplay.
Et on va enchaîner avec une autre question qui va me permettre d'élargir un peu tout ce qui concerne la partie justement pro. Une question de Kebabier qui demande combien gagne-t-on en pratiquant l'e-sport et est-ce que ce n'est pas trop dangereux pour la santé? Alors, qui veut répondre sur la thune?
Sur l'argent.
Sujet qui fâche.
Alors, bah tu vas commencer. Vas-y, pour la Bruce, par exemple, qu'est-ce qu'on gagne? Et surtout, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport aux premières années où justement tu étais en compétition? Qu'est-ce qu'on gagne quand on, par exemple, on arrive champion du monde SWC ou même sur les tournois dont on parlait tout à l'heure, qui tenaient à Las Vegas ou à New York?
Alors sur le SWC, donc c'est un peu moins important que par le passé. Mm-hmm. C'est par le passé, ce PV, je crois que j'avais gagné 13 000 $ la première fois que j'étais champion du monde. Là maintenant, là, je crois que c'est 5 000 $.
Ah ouais.
Donc c'est vrai que
c'est moche.
Moins bien que le cash prize. Après la FIWC, quand on la remporte, c'est 20 000 $. Et puis le fameux tournoi de New York, Las Vegas, là c'est 140 000 $ pour le vainqueur. Donc
ça commence déjà à devenir raisonnable.
Mais après, oui, ce qui a changé, c'est vraiment tout ce qui se passe autour. Parce qu'avant, par exemple, moi, c'est vrai que je gagnais principalement de l'argent grâce aux gains au cash price. Mm. Mais maintenant, c'est vrai que c'est tout ce qui se passe à côté. C'est vrai que les sponsors commencent à s'y intéresser et font appel à nous pour des prestations. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça qui a changé, je trouve.
Bon, on va parler justement du sponsoring juste après. Kayane, et toi, de ton côté, niveau jeu de baston, comment ça se passe?
Niveau jeu de baston, en fait, avec les éditeurs comme Capcom qui organisent la Capcom Cup, ça fait qu'il y a plus de cash prize, mais en fait ça, c'est un peu minus par rapport à des League of Legends, etc. C'est peut-être 20 000 $ répartis sur le top 3, sur 3 jeux. Et du coup, nous on joue toujours, mais on a du mal en fait à pouvoir gagner notre vie avec des jeux de combat. C'est complètement impossible avec les cash prize qu'il y a. Moi, j'ai participé au Major League Gaming avec Yves aux États-Unis. Et là, c'était du 6 000 $ pour le premier, 3 600 pour le deuxième. D'ailleurs, qui va finir premier, j'ai fini deuxième. Mais à l'époque, on n'avait pas de sponsor et ça juste suffit à nous payer, rembourser en fait les frais de transport, l'hôtel et en plus, ils nous taxent. Mais violent.
Sévère.
Ah, ils sont bons.
Ouais, mais il y a une évolution quand même parce qu'avant c'était beaucoup d'associations, mais que ça, des assos qui organisent des tournois. Maintenant, il y a eu des entreprises comme le SWC qui a fait Tekken Tag 2, le MLG, et du coup ça professionnalise le milieu et de plus en plus. Et malheureusement, c'est pas égal partout. Aux États-Unis, il y a des joueurs sponsorisés comme Justin Wong, Evil Geniusis, qui du coup sont payés pour jouer, ils font que jouer toute la journée, mais encore en Europe, c'est pas du tout le cas.
On va y revenir juste après pour ça. Et dans les tournois donc de genre League of Legends, Counter, etc., c'est pareil, c'est aussi bas que ça, parce que ça c'est une misère, on peut
non,
dire.
Elle parlait.
On est quand même contents.
On est quand même. Faut savoir, il y a des tournois qu'on fait pour les sous et d'autres pour le prestige. Il y a eu un championnat d'Europe de Tekken, j'avais gagné 5 000 €, donc c'est pas mal. Par contre, le championnat du monde au Japon, où j'ai fait vice-champion du monde, j'ai rien gagné.
Genre comme le truc. On a
c'est
dit,
le Japon.
Voilà, au Japon, j'ai dit, mais c'est une blague. Non, ouais, je croyais qu'il rigolait, en fait, non, t'as rien gagné. pareil en Corée du Sud, j'étais invité à la télé, je savais qu'il y avait rien gagné, mais comme c'était tellement magnifique et que j'étais invité, j'ai pas demandé, tu sais, j'ai pas fait ma Jennifer Lopez, quoi. J'ai pas demandé mon petit cachet.
T'as au moins pris les savons dans la chambre d'hôtel?
J'ai pris les serviettes. Les serviettes et j'ai pris le magazine. Non, faut savoir que de toute façon, les trois gros jeux qui rapportent de l'argent, vraiment aujourd'hui, c'est League of Legends, c'est Dota. Et Call of Duty, c'est très gros aussi. C'est notamment sur le net, YouTube, tout ça. C'est vraiment des grosses.
Oui, moi j'ai vu tout à l'heure. Hein, c'est par équipe, en tout cas, c'est des millions là.
C'est les trois plus gros jeux de baston, jeux de sport, FIFA, tout ça. On est un peu en dessous.
Et ce qui permet aussi de gagner un peu de sous-sous en dehors des
sous-sous. En dehors dans la peau-poche.
Des tournois, etc. C'est aussi le streaming. Il y a des joueurs comme Gotaga qui streament énormément.
Voilà,
et tous les jours qui réunissent. Autant de viewers qu'un tournoi.
Voilà.
Ça peut être 15 000, 20 000 viewers.
YouTube et tout, ils ont vraiment 1 million d'abonnés et tout ça. Et voilà. Ça marche super.
D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais poser une autre question tout de suite? Non, je ne vais pas poser de question Twitter. Je vais revenir sur sur l'entraînement, parce qu'on se doute que ce n'est pas inné d'être joueur pro en e-sport. Qu'est-ce que ça demande comme investissement pour justement se mettre en condition avant les tournois?
Avant ou en général?
En général.
Bon, alors déjà, il ne faut pas se leurrer, il y a la partie mode geekos, où il faut geeker, il faut vraiment la partie, on oublie tout, il faut consacrer vraiment un gros moment à ça, il faut voyager, il faut aller aller chez les joueurs, faut jouer pour apprendre le jeu. Si on commence depuis tout petit, c'est plutôt bien. Si on joue à plusieurs jeux, on arrive.
Ouais,
voilà,
ouais.
Voilà. On joue depuis tout petit à tous les jeux, donc vraiment on a une certaine capacité du coup pour apprendre, on apprend plus vite. Mais vraiment il y a au moins quelques années, on va vraiment se mettre sur ce jeu et bosser.
C'est de la discipline, hein.
Ah voilà, c'est voilà. Du fun, hein. On est là, ouais. On s'en rend pas compte, même parce que c'est pour le plaisir, on progresse, on progresse encore, on va jouer encore plus, etc. Après, comme a dit Bruce une fois,
ouais.
Il m'a dit une grosse connerie. Non, il m'a dit, et c'est vrai, et Kané aussi est d'accord avec moi, plus le temps, plus on vieillit, entre parenthèses, moins on va jouer. On va se préparer avant un tournoi, on va se préparer 3 à 4 jours, une semaine beaucoup, mais avant on va pas beaucoup jouer, on va plus jouer 2-3 heures par jour. Quoi.
Ouais, et encore,
vous
des fois,
vous
c'est
suivez tous les trois des études encore, non, je crois.
Moi,
non,
je suis encore en école.
Vous suivez encore tous les trois des études, toi aussi.
Non, ah non, non,
quand
non,
t'as
non.
Arrêté.
Moi, j'ai arrêté.
Oh là, fais le bien long.
Ah, surtout pas.
En CE1, là, surtout pas. Vous parlez pas d'études. Hein.
Non, moi, je suis encore à l'école. Je suis en école de commerce en dernière année, là. Mm-hmm. C'est la fin.
La fin. Ouais. On va pouvoir jouer.
On va pouvoir doser. On va pouvoir doser là.
On va pouvoir jouer.
Mais donc ouais, au niveau entraînement, de ton côté, c'est pareil. C'est vraiment une discipline de faire.
En fait, j'ai été très très entraînée quand j'étais petite, à partir de 7 ans. Donc là, oui, je jouais mais énormément par jour. C'était des heures. Je jouais toute seule en mode practice mode. Et après, il y avait mes frères. Je jouais des heures contre eux et ils étaient très bons aussi. C'est eux qui m'entraînaient et même si après je les battais tout le temps. Du coup, là, mon grand frère, il m'a servi de coach. Il a dit bon, bah moi, je gagne pas de tournoi, mais je te donne tous mes conseils. Et des fois, c'était des entraînements quand même difficiles mentalement parce qu'on se mettait en condition de tournoi, en un match gagnant, il me mettait la pression en fait, comme s'il me critiquait ou ce que pouvaient me dire des autres joueurs, il fallait que je le supporte et du coup, je jouais avec. Et bon, des fois, c'était chiant, j'avais envie de le claquer, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à rester calme dans ces conditions-là.
Ça doit jouer, effectivement. Et toi, Bruce, pour l'entraînement ? Comment ça se passe ?
Pour l'entraînement, bah FIFA, c'est l'avantage, c'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de temps. Une fois que tu connais le jeu, je veux dire, ça sert à rien de passer sa vie dessus. Après, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Moi, une à deux heures par jour, ça me suffit. Et par moment, je vais jouer que 2-3 fois par semaine. C'est sûr qu'après, avant un gros tournoi, je vais jouer un peu plus, histoire de me mettre au point tactiquement, être sûr de mes choix et tout, de joueur. Mais voilà, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et parce qu'après, en tournoi, c'est... À ce niveau-là, je pense que ça se joue beaucoup dans la tête. C'est l'expérience qui prime. Donc voilà.
Et justement, tu parlais de coach. Il y a des entraîneurs maintenant aujourd'hui. Il y a des vrais coachs de toute façon. Même je crois que chez Millennium, ils ont carrément une structure d'entraînement.
Ouais, une gaming house.
Voilà, exactement. Ouais. Vous, de votre côté, comment ça se passe ? Et est-ce que ça a vraiment une importance aujourd'hui d'avoir un coach qui joue pas forcément d'ailleurs, hein. Ça peut être juste un soutien qui va te pousser effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment devenu quelque chose de très important aujourd'hui pour vous ?
Les coachs, c'était surtout, il y en a eu depuis un moment, c'est surtout, je pense, pour les jeux d'équipe. Par exemple, Counter-Strike, etc. Il y aura un coach derrière.
Est-ce qu'il y a des grands noms d'ailleurs de coachs ?
Alors,
ça me fait penser à ça.
Est-ce
qu'il y a des coachs dont on se dit, tiens, lui, je sais que.
Tiens, Kané.
Ah, Yazal.
Voilà, c'est le coach de.
Le coach.
Là, moi, c'est pas un jeu d'équipe, tu vois. Mais c'est très important pour moi qu'il soit avec moi. Parce que quand t'es pareil dans un match, t'es dans ta bulle, tu fais pas attention à tout. Et lui, il peut te sortir la phrase au bon moment, calme le jeu, etc. Et donc, ça fait du bien. Donc, c'est super important.
Et d'ailleurs, on le salue. Et je salue son premier fils qui est
un joli
prénom.
Oui, tu le connais en plus.
Voilà. Donc.
Je te demande pourquoi.
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Gianni. Comme moi.
C'est mignon ça.
Oui,
c'est pour toi d'ailleurs.
Oui, je sais. Bah oui, il me connaissait il y a 14 ans. Hein,
voilà, c'est ça. Il me connaissait bien.
Donc oui, le coach pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Toi aussi, tu as un.
Bah, moi, c'était mon frère avant quoi, mais j'avais envie de le claquer plein de fois. Alors, je sais pas si c'était bénéfique.
Mais dans le rôle de manager, j'ai presque envie de dire pour justement gérer vos rencontres, votre calendrier, etc.
C'est pas pareil.
Manager,
c'est pas pareil.
Différent.
Parce que coach, je sais que dans les jeux de baston et les joueurs de FPS, hein, vraiment, un contre un, c'est assez rare. Il n'y a pas un mec qui va dire ah ouais, tu fais ci, tu fais ça. Après, manager, oui, on peut avoir des managers ou non, mais c'est vrai que manager, c'est beaucoup plus courant,
Mais du coup, le manager s'occupe plus de l'administration, tandis que le coach sert à unifier l'équipe dans le cas où c'est un jeu d'équipe, où il sert à rassurer, en fait, à rassurer le joueur, à lui donner des conseils et donner une ouverture, en fait. Parce que quand on est focus dans le jeu, on ne voit pas ce qui se passe, en fait, globalement dans le jeu. Donc, ça doit être pareil pour toi, je pense. Ouais. Même dans les jeux de combat, on est à fond dans un truc et puis après on se dit mais pourquoi j'ai perdu, je sais pas. Et en fait, le coach, il va le savoir. Et
il a le recul nécessaire, t'as été nul et tout.
Genre. le super conseil, cassé, ouais. T'as été nul.
Mais oui, c'est nécessaire en fait, surtout quand on prend le jeu au sérieux, d'avoir quelqu'un pour aider, faire gagner un peu de temps ou faire en sorte qu'on soit optimal quand on joue sur place au tournoi.
D'accord, je vais revenir vite fait sur la thune encore une fois. C'était pour le sponsoring. Comment ça fonctionne aujourd'hui pour être sponsorisé? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'en France en tout cas c'est assez développé? Ou pas du tout d'ailleurs, hein. J'imagine que c'est surtout les pays étrangers qui doivent proposer ce genre de choses. Je veux savoir comment ça se passait de manière générale et aussi pour vous.
Déjà, j'ai un petit message à faire passer. Ah. Alors, arrêtez de m'envoyer des messages. Je ne suis pas un sponsor. Je ne sponsorise pas l'équipe. Je suis une personne. Parce qu'il y a plein de joueurs maintenant qui m'envoient des messages. Et salut.
C'est Bibi du 9-5. Tu pourrais me sponsor? J'ai un tournoi.
On cherche des sponsors. Et votre entreprise pourrait être intéressée. Ouais. Nous avons 10 abonnés Twitter et 15 sur Facebook. Mais voilà, je ne sais pas un sponsor, merci.
Alors, qui veut répondre en premier?
Le message, qui veut commencer?
Norman.
Vas-y,
ouais, Norman.
Toujours moi.
Toujours toi, t'es le premier.
Alors, savoir, les sponsors, il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui s'impliquent dans le sponsoring.
Éditeurs de jeux. Hein,
ouais, éditeurs de jeux, voilà. Par exemple, le tournoi, le championnat du monde au Japon, en Europe, ça, c'était carrément l'éditeur, c'était carrément le créateur du jeu lui-même qui m'avait invité, Namco.
Ouais.
La Corée, c'était une structure en Corée du Sud. Mm-hmm. Après, c'est vraiment par équipe. Je sais que Bruce, il est chez les
SK Gaming.
Voilà, donc c'est eux qui se chargent vraiment de ces transports. Je crois que si je dis pas, peut-être pas tout le temps. Mais...
Heureusement.
Mais généralement, non, chaque joueur a sa team ou pas. C'est comme il veut et après il est sponsorisé, les frais, les hôtels, les voyages, etc.
D'accord, mais ça s'arrête juste aux frais ou ça peut être justement, bah non, t'as un salaire maintenant, tous les mois tu touches ça.
C'est à l'étranger sur les gros jeux, comme on parlait tout à l'heure, League of Legends et tout ça, là ils ont des salaires et tout ça, mais c'est vrai que nous à notre niveau, on est plus défrayés, c'est les transports, l'hôtel, etc., la bouffe. Et en général, il n'y a pas de salaire.
Ce qui est déjà bien, parce qu'à une époque,
c'est déjà ça.
Je suis sponsorisée par Madcat et je suis défrayée. Mais je voyage énormément aussi. Hein. Mm. Je suis allée 7 fois aux États-Unis l'an dernier, pareil cette année, au Japon aussi. Mm. Et franchement, je vis une expérience unique, même si je ne suis pas payée pour jouer. Mm. Je veux dire que les déplacements et faire le tour du monde comme ça, parce que je joue. Et voilà. C'est unique, quoi. C'est quelque chose.
On pourrait demander de l'argent aussi, mais bon, on va pas...
On va pas abuser,
quoi.
Mais quels sont justement les sponsors qui sont les plus actifs sur ce marché-là, aujourd'hui?
Ça peut être même des petits sponsors. Hein. Ouais. Moi, j'étais envoyé aux États-Unis par un sponsor de Street Fighter. Après, il y a des sponsors en France. Il y a Steve Gamer qui m'a envoyé... qui m'a fait un petit plaisir, qui m'a fait un petit voyage pas aux États-Unis mais au Futuroscope. ils m'ont payé la voiture, tout ça. Donc voilà, ça peut
covoiturage.
Ils m'ont payé le covoiturage. Ils m'ont dit, tiens, tu vas y aller en train? Non, en covoiturage. Non, ils m'ont payé vraiment tout l'hôtel, le train, etc. Mais après, ça dépend. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Ça peut être des constructeurs comme des éditeurs.
Ça peut même être un ami. Tu vois, qui te paye le truc.
Il est cool, ton pote.
Cayenne.
En fait, les fabricants de matériel comme la stick arcade, casque, etc. On les voit beaucoup dans ce milieu-là. Madcat, ses concurrents Razer, SteelSeries, je sais plus qui, Sennheiser, Triton, c'est Madcat aussi.
Ah, ouais.
Et en fait, ça c'est bien parce que les joueurs ils sont obligés de s'équiper avec des casques, des claviers, des manettes, et il y a Burn Controllers, il y a Steel Gamer, il y en a plein d'autres.
Mais il n'y a pas encore d'autres marques extérieures, j'ai envie de dire, au matériel ou à l'univers du jeu vidéo. Genre, par exemple, il n'y a pas de Gillette qui va te sponsoriser pour que tu sois bien rasé le jour du tournoi.
Ah non, il n'y a pas ce genre de...
Il n'y a pas encore de trucs comme ça, non?
Il n'y a pas Nike, il n'y a pas...
Si,
voilà.
Si.
Il y a des marques.
Si.
Alors, quelles marques?
Il y en a qu'on Nike, je crois.
Ah où?
Non.
Ah ouais.
Oh non.
Oui, si,
Donc,
si, si.
Pas
si.
Des marques comme ça.
Ah ouais, ouais.
C'est Epsilon qui a Nike, il me semble.
Enfin, j'ai cru voir aussi, ou même Adidas. Ouais. Non, il y a pas déjà des équipes. Quoi.
Adidas, je Adidas. Crois pas. J'ai vu Bic, moi. Bic aux États-Unis, le MLG.
Ah oui, pour Halo, le tournoi de Halo, mais Bic.
Avec
Bic.
Obligation d'avoir son petit briquet. Voilà. Halo,
Tu joues avec ton 4 couleurs.
Voilà. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander maintenant? On va arriver carrément dans la dernière ligne droite, hein, de toute manière. Donc, je vais vous poser une question sur Twitter, toujours hashtag podcastgameblog.
Actif les tweetos. Hein.
Ah bah oui, ça, assez actif, ça va. C'est Ramsey Rules qui demandait: que conseilleriez-vous à tous ces jeunes qui veulent réussir dans l'e-sport?
Déjà, pas négliger ses études.
Ouais.
comme j'ai fait.
Ouais, ça c'est le bad exemple. Il faut pas faire comme Genius.
Et pas comme moi.
Ouais, ben c'est surtout en France. Mmh. J'ai envie de dire partout dans le monde, faut pas négliger ce qu'on est en train de faire, enfin les études qu'on a, et où sacrifier la vie sociale. Genre, je vois des joueurs qui sortent plus de chez eux.
Ouais, ouais, voilà.
Et qui font que jouer, et surtout dans des jeux en équipe où on est vraiment obligé d'être en synchro avec les autres joueurs. S'ils sont 5, c'est beaucoup, quoi. Mmh. Et
ça demande du temps.
Si t'es pas dispo, ça pénalise l'équipe. Donc voilà, c'est énormément de temps à sacrifier quand on est dans ce milieu-là. Et j'ai envie de dire, faites-le après les études, au moins tentez votre chance après. Mais j'en vois beaucoup qui me voient commencer jeune et qui se disent: ah ben, elle a commencé jeune, Kayane. Je dis: ah ben non, mais moi je continue mes études encore, et il ne faut pas que je serve de mauvais exemple, surtout qu'il y a des parents aussi qui me foutent la pression.
Ouais,
là.
Ouais, c'est
ouais, mon fils, il me regarde.
Déconne pas.
Okay. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil.
Bruce.
Non, bah comme elle a dit, surtout pas négliger les études, surtout que en France, il y a une poignée qui arrive à en vivre, quoi. Il y en a pas beaucoup.
Oui, parce que en fait, il y a pas. Est-ce qu'il y a assez de tournois justement, ne serait-ce qu'en France, pour en vivre?
Ça dépend pas des tournois, mais ça dépend surtout des jeux.
Ouais. Ouais. Ça dépend des jeux. Donc c'est l'équipe. Bah oui, évidemment, c'est toujours LOL, Dota,
Call of Duty.
Il y a pas beaucoup de joueurs français qui arrivent à en vivre. Clairement,
ouais, c'est très
non,
rare.
Il n'y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup en France, donc.
C'est un rêve pour beaucoup de.
Ouais, donc ça va être un parcours du combattant, hein, pour
ouais,
vous, game blogueuses et game blogueurs qui nous regardez, qui nous écoutez. Si vous voulez devenir pro gamer, vous allez en chier.
Ouais. Bah, je reçois souvent des messages. Ouais. Oui, mon fils, il joue bien à Call of Duty, ce qui peut arrêter. Alors, faut pas oublier que bon, ouais, ça fait rigoler. Faut pas oublier que déjà, c'est une réalité. Mais comme le tennis ou le foot, il n'y a pas des millions à se faire. Deux, il faut quand même être fort, être bon, vraiment y arriver, parce que faut gagner. Alors être bon dans sa chambre, je sais qu'on peut se sentir surpuissant, mais c'est vraiment différent.
C'est un autre monde.
C'est vraiment un autre monde. Donc vraiment, je reçois des gens qui disent ouais, il veut arrêter, etc. Non, essayez de faire les deux. Tentez votre chance en tournoi, continuez vos études. L'e-sport, ça grandit. Faut pas briser non plus le rêve des jeunes, parce que
ça sera dans 10-15 ans, je pense.
10-15 ans, je pense que c'est
bien
bon.
Bien développé.
Ouais.
Voilà. Donc continuez. Si vous êtes tout petit, si vous avez 5-10 ans, c'est bien parti.
Bah, faut savoir que c'est quand même éphémère d'être joueur pro.
Voilà.
Ça dure quelques années. On a des...
Ah, mais là, on n'a pas la même. Vous voyez, c'est pas comme au foot ou au tennis où on a genre à 30 ans, ça y est, on est vieux. Voilà, c'est,
on peut avoir moins de réflexes en fait. Ouais. Et du coup, comme ça joue énormément sur le mental, on peut être moins effectif. Mais
par exemple, est-ce qu'il y a des doyens dans le. Quel est l'âge des doyens dans chacune des disciplines? Vous savez à peu près?
Bah, le joueur
le plus vieux
qui a pris une substance, il a 36 ans.
Ah oui.
Ouais.
Il en avait besoin, oui.
Voilà, c'est pour ça.
Ça, je comprends maintenant.
Non, non, mais lui, c'est vraiment, il est là, c'est un grand, grand joueur, mais c'est assez rare parce que on parle du physique, mais c'est beaucoup plus dur. Il n'y a pas le physique, c'est beaucoup plus dur. Hein. Mm. Généralement, dans son âge d'or, c'est entre 18 et 23 ans.
D'accord.
Après.
Ça dépend un peu des jeux aussi.
Ça dépend des jeux.
Parce que je crois que sur StarCraft et tout, ils sont au top à 20 ans, non, c'est
ouais,
pas ça.
Ouais, mais même.
Et à 24-25 ans, ils sont déjà moins forts.
Voilà, tu me disais FIFA, ouais. FIFA, ça demande peut-être un peu moins de réflexes.
FIFA,
moins de trucs.
Bah, c'est que c'est un peu plus posé. Donc, il y a encore Noam, par exemple. Mm. Ou des joueurs comme Jim
qui a été champion d'Europe de PES et qui a duré très très longtemps. Hein,
qui sont encore très bons et qu'on vers les 35 piges. Quoi. Mm. Et pourtant, ils ont encore un très bon niveau. Donc voilà, je pense qu'on peut...
Daigo, dans les jeux de combat, est champion depuis perpète. Et
voilà,
il a 32 ans environ.
Il a 32 ans, quoi.
Ah oui,
ouais.
Ils sont jeunes, hein, pour Julo et moi, mais bon,
ouais.
Ça c'est...
Nous,
ouais,
on est
parce qu'on
genre,
est toujours jeunes. Vous êtes toujours jeunes, hein.
Ouais,
oui, hein.
C'est bon, on va pas se faire virer de Gameblog.
Sachez-le, hein, si vous écoutez de podcast, le 20 octobre, c'était l'anniversaire de Julo. Il a eu... Non, je dis pas combien il a eu, mais il est plus vieux que moi.
Bravo,
voilà.
Bravo.
Donc, on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Et tu voulais justement intervenir, Julo, tu voulais demander quelque chose.
Non, oui, sur les conseils, là, vous parliez des tournois en France, etc. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose de migrer, d'aller à l'étranger, aux États-Unis notamment, pour mieux réussir.
Aux États-Unis, en Corée, même en Allemagne, hein, je crois qu'aussi.
Est-ce que nous, on est vraiment en retard par rapport à ces pays-là ? Est-ce que ça peut pas être une bonne chose quand on veut devenir programmeur d'aller à l'étranger pour plus progresser, pour faire plus de tournois, etc.
Je pense qu'il faut l'opportunité d'aller à l'étranger. Par exemple, il y a des joueurs qui sont dans l'équipe Fnatic. Il y a quelques Français dedans. Et c'est une équipe allemande, si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai invité un pour l'émission Game One. Et il vient d'Allemagne, quoi. Il s'entraîne là-bas, etc. Mais voilà, ça dépend des opportunités qu'on a. Et du coup, après, c'est à nous de décider si on veut quitter la France pour aller essayer de vivre mieux notre passion ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir quitter sa famille, les amis, tout ce qu'il y a en France pour aller vivre de sa passion quelques années. Stéphano l'a fait pendant un an, mais après il y a une certaine pression aussi de l'équipe où il a fait partie. Les conditions sont pas les mêmes, rien qu'une il a fait une blagounette déplacée et il est suspendu quelques mois.
Ça rigole,
donc
pas.
Dans les autres pays ils le prennent très au sérieux et il faut s'adapter, quoi.
Parce qu'il y a le salaire aussi derrière, il va là-bas, mais comme dit Kainé, on n'a pas tous la même opportunité. Lui, il est là-bas, il y a pour un gros salaire, pour un gros jeu, une grosse équipe. C'est vraiment une poignée.
Il a dû gagner d'abord en France, et se faire remarquer dans des grosses compètes avant d'avoir cette opportunité-là. Donc, c'est pas donné à tous.
Non, alors, c'est vrai qu'à l'étranger, tu progresses beaucoup plus, je trouve. Mais après, encore une fois, ça dépend du jeu. Parce que par exemple, moi, mon niveau à l'étranger, ça ne me servira pas grand-chose. Qu'en France, avec peut-être l'Espagne et l'Angleterre, on fait partie des nations majeures sur le jeu. Donc, à part les tournois qui te font progresser, je veux dire, aller vivre à l'étranger, ça ne me ferait pas progresser, quoi, en fait.
T'as pas envie de migrer à Miami, je sais
si,
pas,
c'est
avec Booba et Queen.
Là, si, c'est pas un souci, ça j'ai envie, mais après, pour au niveau
t'attends
du jeu,
t'attends
d'avoir
tes études d'abord.
Ouais, voilà.
Bon, ça c'est sage. Pour résumer rapidement, alors, si jamais on veut suivre, ne serait-ce que suivre aujourd'hui l'e-sport dans sa globalité, les sites principaux en France qu'il faut suivre.
Si vous voulez suivre l'e-sport, c'est sur Game One, l'émission.
Aussi,
évidemment. Le petit coup de pub.
Tous
les mardis à 22h15, KD et moi, l'actualité du sport électronique. Je révise.
Et donc pour les sites.
Pour les sites, je dirais e-sport France, Millennium. Eclipsia, ils font du bon boulot aussi. C'est même une entreprise qui est basée à Londres, mais ils sont plus français qu'anglais. Jeux de combat, bagropoint.fr, eSport France, je l'ai déjà cité. Ils vont tous me taper si je les cite pas, tu sais. Donc je vais laisser à Bruce la parole.
Il y en a que 120, vas-y.
Je compte sur toi pour tous les citer maintenant.
Et Bruce.
Non, bah après, il y a les sites directement des tournois comme le SWC ou la FIWC pour FIFA, les WCG. Voilà, et puis aussi les réseaux sociaux, quoi. C'est sûr qu'on se tient au courant beaucoup sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Il n'y
a pas un site genre FIFA France j'avais vu un truc comme ça.
FIFA Interactive World Cup aussi.
Ça, c'est la FIWC, c'est la Coupe du Monde officielle de la FIFA. Mais donc, ça parle que de la FIFA et pas des autres compétitions, et c'est vrai que c'est le problème, ça passe beaucoup par Facebook, mais c'est vrai que tout n'est pas centralisé, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est dommage.
Donc voilà, ça c'est pour suivre, et si on veut s'investir, on contacte qui là, si demain, là tout de suite, là maintenant, pour résumer pour la fin de podcast, là tout de suite, je suis un super joueur de Soulka par exemple.
Ouais.
J'appelle qui ? Je dis voilà, je suis une brute, je veux vous le montrer.
Bah par exemple, pour les joueurs qui me disent ça, je leur dis allez sur soulcalibur.fr parce que c'est là qu'il y a toute la communauté de Soul, et ils sont chauds pour des sessions offline ou en online, etc. Et après on peut aller au tournoi aussi. Et en fait, à chaque joueur qui veut s'investir dans un jeu spécifiquement, il faut se renseigner en fait sur quel est le site qui regroupe le plus la communauté
Par exemple, on va essayer de voir si on peut les avoir. Clair. Attention, c'est un peu une révision pour vous avec votre émission. Par exemple, alors Counter-Strike Global Offensive.
Il y a Counter-Strike France.
Ok. Call of Duty.
Call of Duty France.
Dota 2, League of Legends.
Gota 2, League of Legends, eSport France.
eSport France.
Millennium aussi.
Voilà, Millennium. Ils font tous les grosses actualités, des jeux PC. Et ça.
Shootmania, Storm. Et Trackmania au passage.
Nadeo, le site, et eSport France encore une fois.
FIFA 14, tu l'as dit.
Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux aussi.
Et puis StarCraft.
O Gaming TV.
Et sur le site de Blizzard, Battle.net, tout ça. Ouais. Genre on balance des trucs.
Vous avez bien répondu au questionnaire. Bon. Alors pour la peine, vous avez mérité un quiz.
Oh là là, qu'est-ce que tu nous as mijoté ?
De podcast.
Le quizade.
Petit récap quand même, hein, jusqu'ici. C'est la première fois que Julien ne va pas être là aujourd'hui. Il a déjà 4 participations, il a gagné 3 sessions à lui tout seul. Julo en a gagné une. Et Cyril Bérébi, qui est l'ancien rédacteur en chef de l'officiel Xbox, qui travaille aujourd'hui chez Animan, était passé la semaine dernière et il avait gagné une session. Il s'était retrouvé ex aequo avec Julien. Alors bah, voilà, vous êtes 3 contre Julo. Je pense qu'il y a moyen que vous.
Ah non, mais il y a complot là, il y a corruption.
Je suis l'ordure, moi, je m'en fous, vous pouvez être n'importe qui.
Il n'y a pas que dans l'e-sport.
Non, il n'y a pas que dans l'e-sport.
On répond comme ça, on lève la main.
Alors, vous allez crier votre pseudo dans le micro et je vous conseille tous les deux de partager le micro.
Ah, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud de vous partager.
Voilà, il est là. Donc, vous criez votre pseudo. Sauf pour quelques questions, vous verrez, je vous expliquerai les questions juste prix où vous donnerez chacun vos réponses. Mais sinon, vous criez votre pseudo. D'abord, vous criez votre pseudo avant de donner la réponse. C'est très important. Et j'arrête le jeu au moment où vous donnez votre pseudo.
Kayane.
Ça rigole fait, ouais. Lulu, c'est le mec qui a le micro. Lulu.
Évidemment, si c'est plusieurs syllabes, c'est plus compliqué. Alors.
Ouais, je suis pas de chance, moi.
Attention, question numéro 1.
C'est sur le.
Très difficile.
C'est sur le jeu ou l'e-sport ?
C'est sur le jeu, sur le jeu, sur le jeu.
Ah, sur le jeu. Ah,
oui, non, non. Putain, alors. Attendez. Marie-Laure a décidé pour tout le monde. C'est la... valait mieux
ça,
faire ça.
Ouais, on a vu ça. On a eu le droit de rien dire.
Oui, je raconte
après,
un peu
Bruce
les coulisses,
a dit qu'il était d'accord. Après, toi, t'as pas répondu.
Si, je t'ai répondu. J'ai dit qu'il allait se faire croquer.
Voilà, vous savez tout comment ça s'est organisé. Question numéro 1. Combien y a-t-il de formes différentes à Tetris ?
Genus.
Oui.
5.
Perdu.
Julo.
Oui. 6. Perdu.
Bruce. Spank.
7. Bravo. Et voilà. Hop.
Oh là là.
Trop vite.
Tu vois, faut attendre.
On y joue, on compte pas.
Qui prend déjà la tête. Ouais. Qui prend les notes dans son coin. Oui, tu pourrais te lever aussi. Voilà. Comme ça.
Voilà, tu sais, genre le mec à fond.
Alors, attention. Question numéro 2. Là, normalement, tout le monde sait ça. Quand je dis tout le monde.
Rapidité, faut dire sans blase direct.
Ouais. Ouais.
Normalement, tout le monde le sait. Quel code fallait-il rentrer sur Super Nintendo à Street Fighter 2 pour sélectionner les mêmes personnages? Je la refais. Quel code fallait-il entrer sur Super Nintendo à Street Fighter 2 pour sélectionner le même personnage?
C'est pas juste, j'étais pas né moi.
Tout le monde connaît ce code.
Genus LR Select.
Perdu. Tout le monde connaît ce code.
Mais non, on joue
je l'ai fait un milliard de fois, mais je m'en souviens plus du tout.
Tout le monde connaît ce code. Il n'y a pas que toi qui connais.
Il a été repris par la suite aussi pour Street Fighter 2 Turbo et pour d'autres d'ailleurs, mais. Tout le monde
mais
le
il y a du haut bas gauche droite dedans mais
bah, y a, oui il y a des touches effectivement
non, mais non je, pour la défense on jouait une version où t'avais pas besoin de code pour prendre le même perso c'était une version voilà
après c'est vrai je parle de quelque chose qui date de il y a 20 ans
c'est pas haut bas gauche droite LR non
non j'ai
non
okay. Ça dommage, c'est ton ça c'est le code de ta maison
vous connaissez pas oh, je suis déçu
bah non parce qu'on jouait une version je te dis on pouvait prendre le même perso
bon bah ok bah, je vais donner la réponse immédiatement puisque je crois que personne
ça
ne doit
être, ça se trouve c'est un vieux truc
ah non non c'était O R L Y B X A
ah j'avoue
ah j'étais presque tu sais genre j'avais fait L
pourtant je suis sûr
facile quoi. Ouais,
ah bah bien sûr oh là là je suis sûr que Poufy tu l'avais. Ah, Poufy ne l'avait
personne
pas, il a hoché la tête.
En fait, à part toi, il n'y a personne.
Il n'y a que toi qui l'avais.
Non, mais là, vous me répugnez. Alors, question numéro 3. Ça concerne un peu plus les footeux cette fois. Bon, bref.
Oh.
En 1995, sort Actua Soccer sur PS1 et Saturn. Qui assurait les commentaires?
Mais c'est quoi ces questions?
Julo.
Thierry Roland.
Bravo, Julo. Oh, c'était Thierry Roland.
Je me suis dit, c'est trop facile, je l'ai pas dit.
Bah,
dit.
Voilà, c'est le plus facile, il fallait venir au plus facile.
Bon.
Après, c'est sûr que bon, tout le monde l'a pas connu.
Bah, bon, aussi, là, tu savais pas?
Bah, moi, j'avais pas joué à celui-là.
C'est vrai? Oh là là. Il était génial.
Je
bon.
Connais, mais j'ai pas
question numéro 4. Pour l'instant, il y a un pour Julo et un pour Bruce.
Normal.
Question numéro 4. Dans quelle série de jeux de combat, né en 1997, peut-on incarner un loup, un lapin, un sanglier?
Genus! Genus! Bloody Roar! Bloody Roar!
Bloody Roar!
Comment?
Comment?
Donc voilà, un point pour Genius.
C'est le combat. Là.
Voilà.
Ah, oh, mais non.
Non, mais attendez, j'ai une question
tu
idiote aussi.
Ah, ouais.
La question numéro 5, par exemple, est parfaitement idiote. Quel était le nom du petit dragon vert, mascotte de la chaîne de magasins Score Games?
Genius.
Oui.
Spiro. Ah non, il
Julo.
Julo.
Julo. Julo. Julo.
Non, non, je sais.
Scory.
Scory, exactement.
Scory.
Eh oui, c'était Scory.
J'ai failli dire Croc. C'est genre Microx. Ouais, mais il est violet. Il est violet. Il est violet, Spiro.
Ah, mais je suis trop lente, moi.
T'as dit quoi?
Tu l'avais pour Julo?
Scory.
T'inquiète pas, il y a une question midinette, justement.
C'est pour moi, ça.
Tu vas savoir.
C'est pour moi.
Ah, j'espère.
Question midinette. Quel était le titre de la chanson thème de Final Fantasy VIII.
C'est pour toi.
Ah, Kayane, oui. Eyes on Me.
Bravo.
Ah ouais, tu vois, elle est pour moi celle-là.
Tu savais pas, c'était chaud, ouais, ouais, tu m'aimes pas.
Question numéro 7. Quel acteur incarnera le rôle, enfin, aura le rôle principal dans le film Assassin's Creed?
Kayane.
Oui.
Michael Fassbender.
Bravo.
Oh, ouais, je l'aime celui-là.
Ah oui, j'allais le dire. Il va faire de l'effet.
Ouais, bien joué.
Et donc là, c'est la remontée de Kayane qui a 2 points maintenant, alors que tout le monde est à 1 point, ah, si ouais, je ne m'abuse. C'est ça, Poufi?
Non, il a 2.
Ah, il a 2 points.
Oh, oh ouais, rivalité.
C'est chaud.
Attention, il y a match.
C'est chaud.
Question numéro 8. C'est une question juste prix, donc vous allez tous répondre les uns après les autres. Et celui qui sera le plus près qui gagnera.
Ouh là, il y a du prix.
Combien de visiteurs à la Paris Games Week l'an passé, Norman?
250 000.
Très bien, donc 250 000 pour Norman. Kayane?
210 000.
210 000 pour Kayane. Bruce?
Vas-y, on va dire
300 000. Allez.
Julo?
300 000.
Donc 300 000 pour.
Je vais dire, Hervé.
240, ça a été dit déjà ou...
Non, 200, non. Moi j'ai dit 250.
Non, non,
240.
Dire. Très bien. Et bah, la plus proche, parce que oui, c'est la plus proche, c'est Kayane.
Oh
qui
se,
qui,
c'est 200 000
qui n'est qu'à 2000. Qui n'est qu'à ah, 2000 de, du compte, puisque c'est 212 000 visiteurs.
Ah,
l'année
mais
dernière,
je le savais, tu vois.
Et on
ah,
espère
ouais,
qu'il y en aura autant cette année.
Moi, je parlais de cette année.
Ça fait.
Il est combien cette année
Bruce, il est allé loin. Hein,
ouais, il est allé loin.
Le nombre d'oignons à la sortie du stand Activision après la première journée et le cadeau de 500 éditions collector de Call of Duty. Bref, question numéro 9. Et là, Kayane est devant. Messieurs, vous avez du travail.
Génial, alors.
M'en fous, j'ai répondu à la question.
C'est encore une question juste prix.
Oh là.
Et là, je suis pas sûr que quelqu'un sache, mais bon, c'est encore une estimation. Combien d'heures a duré la plus longue session de jeu sans sommeil répertoriée dans le Guinness Book?
Une normal, semaine.
Une semaine,
sans
d'accord.
Sans sommeil. 72 heures.
Ouais, non, je suis allé un peu loin. Ça, c'est moi.
C'est un gars tout seul.
C'est un coréen.
Ils sont deux, ils sont deux.
Ah oui.
Attends, sans sommeil.
Ils sont deux.
Oui, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu ce truc.
Donc tu as dit une semaine.
Ouais.
On reste sur une semaine.
Ouais, je reste sur une semaine. Okay.
Non, je
c'est chaud une semaine quand même.
C'est chaud bouillant.
Je reste sur 72 heures.
C'est méga chaud.
72 heures.
Ouais, ouais.
Bruce.
Si ça se trouve, c'est plus.
Bah non, moi je l'ai fait tout seul 72 heures. Plus d'une semaine. Il y a un mec qui l'a fait 2 mois.
Attends, il y en a un qui est mort comme ça en Chine.
Un coréen.
Ah non, un coréen.
4 jours.
4 jours.
Ouais, je pense que c'est plutôt dans ces eaux-là.
Julo.
90 heures.
Eh bien, pour cette fois, c'est Julo qui gagne, puisque c'est 120 heures et 7 minutes.
C'est combien de jours?
C'est un record de... Ça fait 4 jours, un truc comme
ça.
T'es sûr?
Mais attends, il...
Bah, moi, j'ai dit 4 jours.
Oh, il est vénère, là. Ouais, ouais.
Ça
bah,
fait bien, combien, attendez.
Tu parlais de rageux, tu parlais de rageux, regarde.
98, t'as dit 90 heures?
Non, ça fait plus de 5 jours, ça fait plus de 5 jours.
Bah, j'ai dit une semaine.
Oui, mais ça n'est pas exactement une semaine.
J'ai dit 6 jours.
Non,
c'est
je pas avec mes 4 jours, non. Non, 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 c'est Julo qui est le plus proche.
Non, mais c'est Gameblog, pouvez... cherche pas.
Ouais. Donc ça fait 3 partout entre Julo
oh
et Yannick.
Oh là là, Bruce, là, t'as sur pas une cacahuète.
Si vous êtes égalité à la fin,
Bruce, on est mort.
Ici, c'est l'école des fans, hein. Tout le monde a gagné si vous êtes égalité. Donc, vous,
ah, bah c'est bien.
Rassurez-vous. Le record, au passage, c'est le record de Chris Gloyd et Timothy Bell sur la série Résistance. Et ça devait être dur. Question numéro 10, qui va donc départager peut-être Yannick. En étant un vrai tueur, à quel jeu Vugar Hüseyinzadeh est-il devenu en Azerbaïdjan manager d'une équipe réserve de football?
What?
Attends,
en faisant
quoi?
En étant un jeu. Il est
sûr. Tu veux dire
Julo?
Oui. Ah, football manager.
Allez le dire.
Bah, oui.
Putain, football manager.
Bravo Julo.
Ah,
c'est la victoire de Julo aujourd'hui.
La question.
Effectivement.
En étant un tueur, genre dans la vraie vie. C'est genre un tueur.
Oui, bon après voilà, c'est mal formulé.
On tue dans le
okay,
jeu.
Pardon. Sincère, bref, le mec est quand même.
Je profite de l'absence de Julien. Parce que c'est des questions généralistes quand même.
Oui, oui, bien sûr. Parce que le mec quand même est devenu manager de l'équipe A' du FK Bakou, qui est en première ligne d'Azerbaïdjan. Juste en envoyant son CV comme ça, bah moi je suis bon à football
mais
manager.
Les clubs pro ils servent de la base de données d'FM pour recruter des joueurs.
Ah bon?
Pour de vrai, des jeunes et tout, pour aller superviser carrément.
Ah,
c'est bon.
Il y a
ça.
Des clubs qui l'ont déjà dit. Ouais.
C'est vrai,
ah,
ça, je savais pas du
fidèle
tout.
À la réalité. Ouais.
Mais souvent d'ailleurs, effectivement, t'as des gros joueurs de football manager qui te disent ils voient des joueurs exploser en vrai.
Ouais.
Voilà, et puis ils se disent bah, moi je l'avais acheté,
acheté
il m'a fait gagner la Coupe d'Europe, etc.
Il y en a qui se sont trouvés aussi, hein, il y en a qui n'ont jamais percé. On va pas.
Mais ça se trouve, Domenech avait sélectionné Chimanda sur football manager. Hein, peut-être. Et bien voilà, ainsi s'achève ce podcast. J'espère qu'on a fait le tour de l'e-sport convenablement. De toute façon, je vous invite tous, gamebloggeuses et gamebloggeurs, à réagir sur le forum de ce podcast. J'en profite pour remercier évidemment nos invités Genius, Kayane,
merci.
Tous les mardis 22h15.
Oui, sur Game One.
Game One eSport.
Soyez au rendez-vous. Bruce, tous les... Quoi ?
Lundi. Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours. Tous les
chez lui.
Toi.
Chez lui.
Tranquille. Bientôt, bientôt au Paris Games Week pour le tournoi FIFA.
C'est
on croise les doigts pour toi.
La semaine prochaine, c'est gentil.
Bah non mais attends, cool. t'es notre champion, tu vas le rester et puis merde.
Je sais pas.
Peut-être que si jamais t'as un souci, de toute façon on appellera Patrice Evra dans le vestiaire pour te faire un petit discours.
Un petit brief, hein,
ça peut m'aider.
Ça peut t'aider. Et puis on va remercier Julo aussi parce qu'il était
tous les jours sur Gameblog.
Tous les jours sur Gameblog, effectivement.
Un génie.
Toujours, aussi,
merci.
À la technique.
J'apprécie.
Et puis donc on attend vos réactions. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore. Sayonara.
Salut.
Ciao.
Sayonara.
Sayonara.